Chapitre 7. Pendant son voyage, au milieu de ses pensées tristes, M. Durand avait conservé un espoir inconscient, et quand il analysa ses sentiments, après avoir vu Rudal et entrevu le chemin déjà parcouru par Brigitte, il comprit combien étaient profondes les racines de cet espoir. Sa déception lui semblait renouvelée et définitive. Tantôt, il se reprochait son éloignement. Tantôt, il se demandait de quel droit il eût parlé et comment il eût pu éclairer M. Desponnet sur les dangers de la situation. L'idée que Brigitte pourrait, après tout, épouser un homme sans position et sans fortune était acceptable et les doutes qu'inspirait à Séverin l'honorabilité de M. Rudal demandaient à être confirmés par des faits. Quelles que fussent ses angoisses, il reprit ses occupations habituelles et chacun le trouva, comme toujours, attentif et bienveillant. Il n'était pas de ceux qui font retomber sur l'humanité, en sentiments misanthropiques, les déboires de leur cœur. Mais l'expression heureuse de son visage s'était modifiée et, sous le couvert de leur toit, les paysans disaient « Monsieur Séverin a du chagrin, nous savons bien pourquoi ». Néanmoins, aucun, même parmi les plus vieux qu'il avait connus petit enfant et l'aimait, n'eût osé faire une allusion, Durand, comme la plupart des hommes, ayant à un très haut degré la pudeur orgueilleuse de la douleur. Pourtant, il souffrait beaucoup, s'astreignant à fréquenter Noirpin avec le plus amer sentiment de jalousie, mais avec l'arrière-pensée d'étudier l'homme qui allait, il le voyait bien, lui ravir tout espoir. Il constatait que sa présence, en excitant son rival, l'incitait à oublier son rôle et à laisser pénétrer plus avant dans sa personnalité. Homme de travail et cerveau surchargé d'idées malsaines, Rudal, depuis sa plus petite jeunesse, puisait dans le contraste entre ses ambitions et la mesquinerie de sa position une amertume qui faussait en lui le sens du juste. Intelligent et se croyant des aptitudes générales, comme les orgueilleux des tristes couches nouvelles, il avait pensé que le travail et la persévérance le mèneraient à tout. N'ayant obtenu qu'une place médiocre, abandonné dans un moment de dépit, il était entré comme précepteur dans une famille piémontaise. Revenu en France, disait-il, sur la promesse formelle d'un ministre, il avait décidé, pour occuper quelques mois de loisirs, d'accepter le travail proposé par M. Desponnet. Quand il émettait dans la conversation des idées dangereuses ou vulgaires, M. Durand regardait Brigitte avec l'espoir de surprendre un signe de mécontentement ou de désapprobation. Mais, perdu déjà dans les aspirations d'un amour naissant et dans les chimères de l'inexpérience, elle palpitait d'une émotion joyeuse à la pensée d'être pour Laurent l'ami qui, en pansant les blessures d'une main légère, redresse les idées. D'un autre côté, la présence fréquente de Durand donnait plus d'ardeur au désir de Rudal. Excité par la jalousie, sa cour devint plus chaude, son but plus déterminé, et Brigitte, emportée par ses propres sympathies, se laissa aller tout entière à la joie d'abord vague et bientôt plus précise qui l'enveloppait. 25 mai. Que de fois j'ai pensé aux aventures extraordinaires qui devaient transformer mon existence. Quelles seront-elles? Je l'ignore, mais assurément, elles seront. Il semble, je ne sais pourquoi, que la transformation soit commencée. Oh, douceur de vivre! Sont-ce le soleil et les fleurs qui la font sentir si vivement? Jamais je n'avais passé de printemps à la campagne. Quelle saison! Elle est incomparable et ne ressemble en rien à celles qui suivront. Le manoir est 100 fois plus joli sous le soleil qui dissipe les derniers souvenirs de l'hiver. Je crois que M. Rudal est, comme moi, heureusement impressionné, car il est plus gai, ses yeux sourient plus volontiers, et souvent il sourit en me regardant. Une véritable intimité s'est établie entre nous, et il apprécie bien, maintenant, l'ami qu'il a rencontré. Serais-je seulement son ami? N'a-t-il pas quelquefois la pensée que notre vie... Mais ai-je le droit de supposer, ou d'espérer peut-être, avant de connaître ses sentiments? Depuis 15 jours, il est tellement attentionné et, s'il m'est permis d'employer pareille expression, si tendre. Il me cherche quand je ne suis pas là, il aime à recevoir de moi un mot approbatif quand il discute et il m'écoute avec déférence, avec douceur, quand, seul avec lui, je combats ses idées trop hardies ou trop amères. « Toujours auprès de vous, je changerai, m'a-t-il dit. Il est bon, il est apaisant de se laisser modeler par une douce main, par un esprit frais et pur comme le vôtre. Ah, si j'osais, que je voudrais !» Il s'est interrompu et a quitté le salon subitement. « Que voudrait-il ? Et pourquoi n'oserait-il pas ?» 5 juin. Hier, il m'a parlé de son isolement dans la vie. Comme je le plaignais et le comprenais bien. « Comment ferais-je, m'a-t-il dit, en quittant cette maison ? Que faisiez-vous avant ? Je souffrais. Pauvre, pauvre Laurent, pourquoi l'aime-t-on si peu à la Durbetière ? J'aurais cru M. Duras plus maître de lui et incapable de manquer à la justice. C'est à peine, cependant, s'il dissimule son antipathie. Singulière anomalie avec sa courtoisie habituelle. Cette attitude me déplaît souverainement. » Un jour, si l'occasion se présente, je lui exprimerai mon mécontentement. 7 juin. Heure délicieuse passée aujourd'hui avec M. Rudal. Nos esprits étaient en accord complet et il est entré si admirablement dans mes tristesses. Hélas, ne sont-elles pas, au fond, les mêmes que les siennes ? Ne sommes-nous pas deux isolés ? Je n'avais encore abordé que par allusion un sujet douloureux à mon cœur. Mais pouvait-il passer 11 semaines sous notre toit sans tout voir et tout comprendre ? Nous étions arrêtés près des saules dont quelques-uns sont pleureurs. Les branches plongeaient dans le ruisseau, les libellules étendaient leurs grandes ailes sur l'eau tranquille et les reines des prés dressaient leurs grappes blanches. Je regardais avec un plaisir infini le cadre petit mais très exquis qui nous entourait. Je l'avais vu déjà sans le découvrir. Pourquoi donc ? N'est-il pas étrange, dis-je en levant les yeux vers lui, que l'on passe si souvent aux mêmes endroits sans en deviner la beauté ? Voyez comme ce coin est joli. J'ignore pourquoi ces mots ont paru lui plaire. Je ne sais quel rayon de plaisir a passé dans son expression. Devenue tout à coup si intimidante que j'ai baissé les yeux vers les grandes libellules. « Oui, c'est joli, m'a-t-il répondu, mais je vous croyais loin de cette nature, car vous avez été attristé ce matin. » C'était une allusion directe à l'un de ces fêtes qui me sont pénibles, mon pauvre père, toujours le même, ayant vanté les plaisirs de ma vie et la raison de mon esprit. Déjà au travail, avait dit M. Rudal en traversant le salon où j'étais installé de bonne heure. Il le faut bien, l'agilité de mes doigts est précieuse. Plus précieuse encore, celle de vos pensées qui vont, je crois, beaucoup plus vite que vos doigts. Par exemple, s'est écrié mon père, vous ne la connaissez pas, elle s'absorbe entièrement dans son travail. Elle est raisonnable, ma chère fille, et s'amuse si facilement. N'est-ce pas, Brigitte ? Dans cette paix de la campagne, les jours passent pour elle, filets de soie, comme on disait jadis. J'avais tourné la tête. Néanmoins, M. Rudal avait eu le temps d'observer mon expression. Il rappelait tout à coup ce petit fait, sans doute pour me tendre une main amie. Mais je répondis évasivement. Pourquoi me supposer loin d'ici ? La vue de cette campagne n'est-elle pas délicieuse ? Quand le cœur souffre, je ne crois pas, dit-il, que l'esprit puisse se distraire aussi aisément. Comme il prononça ces mots d'une façon amicale pour amener mon âme à s'ouvrir. Et pourquoi, puisqu'il avait tout vu et deviné, ne lui aurais-je pas parlé très ouvertement de mon chagrin ? Nous causâmes longtemps et j'ajoutai : j'essaie de me persuader que je suis dans l'erreur. Mais si mon père m'aimait vraiment, croyez-vous que sa clairvoyance ne serait pas plus grande ? Serait-il aveugle sur les tristesses qui peuvent assaillir une fille de mon âge, sans amis, dans un isolement aussi complet ? Évidemment, pauvre enfant, et souvent, en vous voyant tranquille et occupé, mais souffrant au fond de vous-même, j'ai déploré cet isolement dont vous parlez et admiré la douceur de votre nature. M'aimera-t-il un jour ? Le croyez-vous ? Est-ce vraisemblable ? Je ne voudrais pas augmenter votre chagrin, mais vous savez bien que les années, chez un vieillard, émoussent les affections au lieu de les développer. Puis, ne voulant pas appuyer sur une impression douloureuse, il reprit « Cherchez ailleurs l'accomplissement de vos belles visions. C'est vers elles, je le sais, que vous vous réfugiez. Elles ne vous tromperont pas. » « Que je suis heureuse de vos paroles, m'écriai-je. Vous, homme intelligent, vous voyez la vie comme je la vois moi-même. Vous ne voudriez pas éteindre le flambeau. » « Quelle absurdité, répliqua-t-il avec conviction. Éteindre le flambeau, dites-vous. Éloigner une âme de ses aperçus intuitifs, mais c'est coupable. » Je me gardai de prononcer le nom de M. Duras et repris vivement « Le langage, plein d'espérance de ses aperçus, suffit à embellir ma vie. Et l'espérance deviendra la plus douce des réalités, me dit-il avec un sourire d'autant plus séduisant que rarement il passe sur son beau visage. Je ne voulais rien répondre, dans la crainte de me trahir, et lui-même garda le silence, ne jugeant pas le moment opportun pour s'expliquer. Cependant, son ton m'apparut bien significatif. Je suis revenu seul près du ruisseau et j'ai médité chaque mot de notre conversation que l'on sentait si près de dévier. J'aime les reines des prés et les branches tombantes de mes saules. 8 juin. Pour compléter la douce journée d'hier, nous sommes allés avec lui près de l'eau transparente qui est une des surprises de la forêt. Que lui disait ce lieu romantique, si bien fait pour la poésie du rêve ? Mon père, insensible aux douceurs de la nature, parlait des Romains, venus sans doute, jadis, à la place que nous foulions. Ils ont jeté dans le pays des noms dont les villages qui nous environnent conservent l'étymologie. Quand vous connaîtrez mieux la contrée, Rudal, vous ferez des rapprochements curieux. Que de rapprochements plus intéressants entre ma pensée et l'imagination des poètes qui, au fond des âges les plus reculés, ont salué, aimé et dépeint la fraîcheur de la vie printanière. Monsieur Rudal s'approcha de moi. « Où êtes-vous » demanda-t-il. « Avec ceux qui ont chanté de tout temps le soleil, les ombrages et les fleurs. Ils ont chanté et ont vécu, car dans ce qui nous émeut et nous touche, il y a un sentiment éternel. » Il s'arrêta, mais ne devinais-je pas quel était ce sentiment ? Le regard de Laurent me l'eût appris si, dans mon cœur, n'avaient déjà retenti les sons caressants qui soupiraient autour de nous. S'il se décide à parler, je voudrais que ce fût à cette même place, dans ce lieu délicieux où j'ai cru saisir la forme tangible de mon rêve. Brigitte jeta sa plume pour s'absorber dans ses pensées. Ne se dissimulant plus son amour pour Rudal, elle voyait avec quelle ardeur elle désirait les aveux qui devaient l'engager dans des liens définitifs. L'intelligence et les qualités extérieures de Laurent l'avaient assez séduite pour qu'elle pardonnât les défauts. Du reste, que devenait-il à ses yeux si elle les apercevait ? Il se transformait en raison d'aimer plus et en moyen de se rapprocher de lui. Ainsi, quand il insistait sur l'indifférence de M. Déponet pour sa fille, elle découvrait, dans ses paroles mauvaises, la marque d'un cœur compatissant qui s'unissait au sien. Elle oubliait comment, en semblables circonstances, elle avait qualifié l'attitude bien différente de Séverin, et si elle avait établi une comparaison, c'eût été en faveur de Rudal. Pendant qu'elle réfléchissait, on vint lui dire que M. Duras passait à cheval et désirait lui parler. Croyant qu'il traversait la propriété sans s'arrêter, elle descendit dans la cour. Mais il avait mis pied à terre et attaché sa monture. « Voulez-vous m'accorder quelques minutes d'entretien ? Dit-il à Brigitte. « Et vous plairait-il de marcher un peu avec moi dans la prairie ? La matinée est engageante. »« Si vous le désirez, » répondit-elle froidement. Sans avoir l'air de remarquer cette froideur, Séverin traversa la cour et entra dans le pré. Ils s'avancèrent le long de la Saulée en effleurant des banalités que Brigitte savait être les préliminaires d'une conversation sérieuse. Elle remarquait, elle ne l'avait point encore fait, que l'expression de M. Duras, devenue plus grave, ajoutait de la dignité à sa physionomie ouverte et calme. Sans se douter combien l'endroit était mal choisi, il s'arrêta près des saules pleureurs qui rappelaient à Brigitte les moments si doux passés avec M. Rudal. Je vous ai éloigné de la maison, dit-il, parce que je désirais que notre conversation ne fût pas interrompue. Il attendit un mot encourageant, mais Brigitte froissait en silence une reine des prés qu'elle venait de cueillir. Je ne suis pas un diplomate, reprit-il, et j'irai droit au but. Vous souvenez-vous du jour où, ayant refusé mon amour, vous m'avez prié de rester votre amie? Comment aurais-je oublié? Ce jour est-il donc si éloigné? Ah, dit-il avec une légère amertume, le temps se mesure-t-il sur lui-même ou sur les événements qui modifient profondément la vie? Brigitte sentit vivement l'exactitude de cette remarque. Elle savait dans quel lointain lui apparaissait la déclaration que M. Duras lui rappelait, et ce rappel lui était désagréable. « Je vous ai répondu, reprit-il, comptez sur mon amitié, aussi bien dans l'épreuve que dans la joie. Mais l'amitié, comme je l'entends, implique des devoirs, et c'est pour remplir l'un d'eux que je viens à vous aujourd'hui. Qu'est-ce donc ? Dit-elle, pressentant sur quel point l'attaque allait être dirigée. Je ne veux que vous dire ceci, défiez-vous de certains dehors. Je ne vous comprends pas. Si, vous comprenez au contraire, ne m'obligez pas à être plus explicite. Et pourquoi donc ? Suis-je une enfant à qui on refuse la vérité ? Non, dit-il très doucement, vous n'êtes pas une enfant, mais une femme trompée, comme tant d'autres, par la générosité de son cœur. Elle eut un léger mouvement d'épaule qui signifiait « Je ne comprends plus du tout ». Alors, puisque vous m'y obligez, je vais m'expliquer aussi clairement que possible, bien que mon désir eût été de vous mettre en garde par un seul mot. Si j'ai bien observé, vous vous laissez influencer par la pitié que M. Rudal cherche à vous inspirer. M. Rudal n'a pas besoin de pitié, répondit-elle vivement, et un homme qui souffre n'est pas nécessairement un trompeur. Qui souffre ? Allons donc, s'écria-t-il, perdant subitement son calme. À quoi avez-vous vu qu'il souffrait ? Ah, son jeu est habile ! Aussitôt, il reconnut sa faute et s'aperçut que, loin de conduire la conversation comme il en avait l'intention arrêtée, il l'avait immédiatement laissé dévier, emporté par la vivacité de ses impressions. Le visage de Brigitte exprimait un vif mécontentement et, dès ce moment, Duras comprit que la partie était perdue. Néanmoins, il voulait aller jusqu'au bout de sa tâche, entreprise sans illusion, mais avec la résolution ferme d'accomplir un devoir. Il avait parfaitement analysé les effets de sa démarche. Où elle serait appréciée, ou, ce qui était plus probable, elle donnerait plus de force à un sentiment déjà profond en excitant Brigitte à défendre Laurent et à le croire victime de l'injustice. « C'est une chance à courir », s'était-il répété pour la dixième fois en montant à cheval. Et il était parti, encore hésitant, mais entraîné par le désir de s'occuper d'elle, autant que par la pensée d'être écouté. Toutefois, il n'avait pas prévu la façon dont Mademoiselle Déponet accueillerait ses paroles. Il savait la mécontenter, mais non l'irriter, et il observait avec surprise le nouveau jour sous lequel le caractère de la jeune fille se révélait à lui. Est-ce à moi que vous deviez vous adresser ? N'est-ce pas plutôt à mon père ? Dit-elle en prenant l'offensive. Pourquoi ? Répliqua simplement Duras. Ma démarche ne rentre pas dans la convention habituelle, j'en conviens. Mais, au-dessus de la convention, il y a cette amitié que vous m'avez demandé de vous conserver. Il y a les circonstances qui font que vous êtes sans guide et sans ami. A-t-on tellement besoin d'un guide à 21 ans, dit-elle avec vivacité. Et me prouvez-vous votre amitié en attaquant un homme que j'estime ? Oui, car j'encours votre mécontentement et un faux jugement sur mes intentions. Comprenez ma loyauté et sachez que je vous parle sans aucun parti pris. Mais Brigitte, sortie du caractère doux que lui avait toujours vu Séverin, méconnaissait ses intentions et l'accusait de vilenie. « Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Sur quoi fondez-vous votre antipathie pour M. Rudal ?»« Sur quoi ?» s'écria Duras, qui eut assez d'empire sur lui pour s'interrompre brusquement. Il ne pouvait pas lui crier. « Sur quoi ? Mais sur l'amour que vous avez pour lui et qui me fait bouillonner, moi qui vous aime comme il ne vous aimera jamais, sur l'erreur de votre cœur qui vous entraîne vers un homme dont les qualités brillantes ne dissimulent pas certaines tares. » Il marchait auprès d'elle en s'imposant un effort violent pour se ressaisir, pour éliminer tout sentiment douloureux, afin de parler avec modération et justesse. « Mon antipathie, puisque c'est le mot que vous employez, reprit-il avec calme, ne repose pas sur une impression d'un ordre intime. Elle vient d'une expérience des hommes que vous n'avez pas et qui me fait juger que M. Rudal, s'il demandait votre main, ne serait pas digne de vous. » « S'il demandait votre main. » C'est le mot qui la frappa pour l'inonder de joie, malgré la sensation pénible causée par les paroles pondérées de M. Duras. Ainsi, il croyait à l'amour de Laurent pour elle. Il pensait que, prochainement, le bonheur qu'elle rêvait de posséder lui serait offert. Séverin suivait sa pensée sur son joli visage illuminé. Il voyait que son intervention avait amené un résultat malheureux, et avec un amer chagrin, il touchait du doigt le fait dont il voulait douter encore une heure auparavant. En proie à une irritation que son éducation parfaite contenait difficilement, il éprouvait le plus ardent désir de s'emporter. « Vous ne répondez rien, » dit-il enfin d'un ton sec. Dans la joie intérieure de ses pensées, Brigitte ne songeait plus à se fâcher. Mais le ton de Séverin, sa colère contenue, changèrent ses dispositions et l'excitèrent au lieu de l'intimider. « Je réponds qu'il est mal d'attaquer un homme que vous connaissez à peine et qui ne peut se défendre, n'étant pas là. »« Je m'étonne, » répliqua Duras dédaigneusement, « que vous n'ayez pas encore prononcé le mot de lâcheté. » Il achevait le mal commencé, il le savait. Mais c'était un soulagement pour lui, en même temps qu'une sorte de satisfaction, de l'observer sous un aspect entièrement nouveau. Qu'importe le mot, répondit-elle, sachez que votre attitude avec M. Rudal m'a bien souvent déplu et que je suis contente de vous reprocher ce manquement aux égards que l'on doit à notre hôte. Vous avez dit, il y a un instant, reprit-il en laissant passer avec dédain la dernière phrase de Brigitte, vous avez dit que je ne le connaissais pas. Eh bien, j'apprendrai à le connaître pour vous sauver malgré vous. « Me sauver ? » répéta-t-elle impatiemment. « Suis-je donc en danger ?»« Oui, » répondit-il d'une voix ferme. Il la salua et s'éloigna à grands pas.